Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Il connaît tous les dessous de la politique. Politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'Assemblée nationale doit-elle basculer totalement dans les travaux virtuels en février, comme le souhaite le gouvernement? N'est-ce pas une ruse pour rendre les oppositions absolument invisibles? On en discute avec le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Mais bonjour Thomas Mulcair.
Salut l'autre barbu.
Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Jute et à plein d'autres émissions. Ben, bonne année d'abord.
Ben oui, à toi et à ta famille aussi Antoine.
Merci à toi aussi. Et l'année commence à Ottawa avec un remaniement. C'est signe de quoi, selon toi, ce remaniement?
C'est assez curieux. Mais M. Trudeau explique que son ministre de l'Innovation a décidé de plus se présenter en politique. Lui, il s'en va. Donc, ça produit une sorte de chaise musicale impliquant que des hommes. Pour commencer, une personne un peu moins connue, mais qui a connu des vrais ennuis de maladie au cours des dernières années, Jim Carr de Winnipeg, qui réintègre le sein des saints et qui va être dont son ministre largement responsable pour l'Ouest canadien. Il en avait rudement besoin. M. Trudeau, parce qu'il n'a personne en Alberta, personne en Saskatchewan, c'est bien. Mm-hmm. Ensuite, les chaises musicales. Donc, Omar Al-Ghabra accède au Conseil des ministres et lui, il va être le ministre des Transports, remplaçant Marc Garneau, qui s'en va aux affaires extérieures. Mm-hmm. Ça, c'était important de souligner parce que les affaires extérieures ont connu 4 ministres en 4 ans. En janvier 2017, le ministre, c'était Stéphane Dion. Ensuite, on a eu Chrystia Freeland. Ensuite, on a eu M. Champagne. Et ensuite, on a eu M. Garneau. M. Garneau, je crois, a toutes les qualités requises pour bien faire l'emploi. Il ne faut pas méprendre ce que je dis. Mais sincèrement, 4 ministres des Affaires extérieures en 4 ans, ça, c'est vraiment un signe d'un manque de constance et d'importance et de priorité pour nos affaires extérieures.
Oui, Justin Trudeau avait dit « Canada is back », mais il est back avec plusieurs ministres.
Ben oui. Alors non, ça c'était assez décevant. Et donc, M. Champagne, qui était aux affaires extérieures, lui, il s'en va plutôt à l'innovation, même si on regarde l'ordre de préséance sur papier du Conseil des ministres, c'est vrai que c'est une démotion. Mm-hmm. Mais je crois que M. Champagne va être beaucoup mieux dans ça. Sa famille, lui, il a toujours travaillé dans l'innovation. Sa famille avec une compagnie qui s'appelle Bionest, des installations importantes dans le coin de Shawinigan. Mm-hmm. C'est pour ça que le hockey junior là-bas se joue dans le centre Bionest. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est un bon fit pour le dossier d'innovation. Puis j'ajoute un petit détail sur Champagne.
Oui.
C'est quelqu'un qui est idéologiquement au centre droite. C'est vraiment pas un libéral centre gauche. Et là-dessus, il va être capable de parler le même langage qu'un certain François Legault. C'est le gars qui a une générosité d'esprit lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir une société juste et ouverte, mais il va toujours pencher en faveur de l'industrie puis des entreprises privées. Et M. Legault et lui sont un peu coupés de la même étoffe là-dessus, puis Dieu sait que M. Trudeau n'a pas beaucoup d'entrée dans l'entourage de M. Legault. Alors, tant mieux si ça peut aider là-dessus à établir une meilleure collaboration et un contact entre Ottawa et Québec.
Oui, parce que c'est pas toujours l'harmonie totale entre Ottawa et Québec. Ils se sont pris sur les vaccins, notamment.
Justement, parce que il y a une chose qui démontrait M. Trudeau en faisant son remaniement, puis il s'en cachait à peine, c'est qu'il se prépare pour une élection plutôt tôt que tard. Mm-hmm. Et la question des vaccins, ça, c'est une enclume suspendue au-dessus de la tête de M. Trudeau. Parce que il joue gros. Il a sorti un lapin de son château au mois de décembre, disant, ah, regarde, j'ai trouvé quelques centaines de milliers de doses. Mais là, ça stagne. On se rend compte qu'ils ont mal négocié les contrats. Le Canada est en queue de peloton. On est en arrière des autres pays du G7.
Puis au moment où on se parle, il vient d'avoir une nouvelle de dernière heure à LCN. C'est que Pfizer vient d'annoncer des délais dans la livraison. Donc, peut-être que on va devoir attendre encore plus que prévu.
Oui, et on a très mal négocié les contrats. Et donc, on est en train d'extensionner le temps que les gens vont rester avec une seule injection, espérant protéger autant de gens que possible pendant cette pire partie de la pandémie. Mais disons juste que le public est fatigué et la fatigue se propage comme le virus parce que on a vu la semaine dernière M. Legault donner une réplique plutôt cinglante à M. Trudeau qui avait osé critiquer les provinces, alors que c'est lui qui n'a pas fait sa job pour d'amener les vaccins. Il dit, bah, c'est bien là. Et Pablo Rodriguez, qui n'a aucun rapport avec le dossier, de tweeter, ouais, il y a 50 000 doses qui dorment dans les congélateurs. Oh boy, ça passe à lui plus que ça a failli vraiment partir il y a une semaine. En Ontario, alors, il y a le général Rick Hillier. Mm-hmm. Lui, chef d'état-major ici, responsable de nos troupes en Afghanistan. Lui, il n'a pas manqué Trudeau non plus. Il a dit, hey, ça va faire. Voici la réalité sur l'Ontario. 1, 2, 3, 4. Il a tout exposé qu'eux, ils étaient au-dessus de leurs affaires. Ça n'a pas duré longtemps, ce truc-là. J'ai l'impression que lors d'une de leurs conférences téléphoniques régulières, tout le monde a décidé, bon, on arrête les hostilités, mais on sent que les gens sont tendus. La responsabilité pour donner les vaccins, ça, c'est les provinces. La responsabilité pour les amener, les doses au Canada. Le fédéral a dit qu'il s'en occupait. C'est peut-être les bretelles d'avoir commandé les plus meilleures quantités de tous les pays sur la terre. Puis, oups, tout d'un coup, on se rend compte que, en plus, avec la nouvelle dernière heure que tu viens de mentionner, oh boy, ça augure très mal, Antoine.
Parlons maintenant d'Omar Al-Ghabra, justement, le nouveau ministre des Transports, qui se dit cible d'une campagne de salissage dangereuse de la part d'Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Est-ce que c'est une erreur,
c'est
d'Yves-François Blanchet?
Oui. C'est une rare erreur, je dirais, parce que je trouve que c'est un fin politicien. Je l'ai toujours trouvé gentleman. Quand il a été devant les caméras, qu'il a parlé de ça cette semaine, je me dis, mais il y a quelque chose. Donc, j'ai fait énormément de recherches. J'ai regardé, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus. On trouve des trucs plutôt dans un site web conspirationniste qui s'appelle Rebel, mais rien de crédible. Puis même
c'est un site web d'Ezra Levant, il faut le dire.
Ezra Levant.
Pour ceux qui suivent ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu le Alex Jones du Canada.
Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est pas, y a rien de très sérieux avec ce mec-là. Donc, sur quoi se basait M. Blanchet pour juste galocher ça comme ça? Mm-hmm. Là, plutôt que juste de s'excuser et dire, ben, non, c'est une erreur, il laisse toujours planer un doute sur le fait qu'il y aura peut-être eu des coches mal taillées. C'est vrai qu'il vient d'un pays arabe et il est musulman, mais il n'y a rien.
Il est né en Arabie Saoudite, oui.
Oui, il est d'une famille syrienne.
Syrienne.
Ce qui est intéressant, quand même, le Canadian Jewish News, qui est un peu le journal officiel de la communauté juive anglophone au Canada, avait passé tout ça en revue lorsqu'il s'est présenté en 2015 parce qu'il allait avoir un poste important. Ils ont dit, mais il n'y a rien contre ce gars-là. Et donc, il n'y avait rien qui sous-tendait. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de caisse de conviction. Alors, on se disait, ben, il a juste garoché ça comme ça. Hier soir, il a encore donné une déclaration. Il n'a pas donné une
Yves-François Blanchet,
oui. Une déclaration. Ouais, il a, à Joël Denis de Bellavance, un collègue à la presse, et qui rapporte ça dans le journal d'aujourd'hui, puis il dit, ben, il dit toujours, puis c'est un bon sujet de débat, puis il a le droit dans une démocratie de débattre. Je n'en disconviens pas qu'on peut débattre de tout dans une démocratie. Mais si on est en train de dire des choses qui laissent supposer ou sous-entendre des doutes sur le caractère ou les appuis à la politique islamiste comme il laisse entendre, ben là, il faudrait quand même avoir un petit peu de preuve. La meilleure ligne là-dessus vient d'un autre journaliste bien connu, Chantal Hébert,
qui
a cité la chose suivante que j'ai trouvée vraiment intéressante. Elle dit ceci, et se demander comment Yves-François Blanchet aurait réagi si ses adversaires avait choisi de semer le doute sur son sujet de l'été dernier.
Et son sujet de l'été dernier, c'était une accusation anonyme d'agression puis de consommation de cocaïne.
C'est ça. d'inconduite. Mm-hmm. Alors donc, lui, il a répondu à l'époque, les gens ont laissé ça là, mais la question se pose bien. Donc, normalement, on devrait avoir non seulement un sens de l'État, un sens de son rôle comme chef de parti et sa responsabilité dans notre société, mais aussi un peu d'empathie. Il est passé dans ce tordeur-là lui-même il y a à peine quelques mois. Et voilà qu'il... On ne peut pas juste garocher de la boîte et voir s'il y en a un petit peu qui colle. Ça se peut pas.
Il faut qu'il y ait des preuves. Si on avance quelque chose comme ça, il faut avoir des preuves solides.
Ou au moins quelque chose pour en débattre. Mais jusqu'à maintenant, zéro pied une barre. Mm-hmm. Et c'est ça qui est tellement étonnant avec la démarche de M. Blanchet. Mais il y a quand même de la politique dans tout ça. M. Trudeau montre, en amenant M. Gavra dans son conseil des ministres, son ouverture à une communauté qu'il a toujours courtisé. Mm-hmm. Et ça, c'est l'art du Parti libéral. Ils ont toujours su ouvrir leur tente et aller en cercle concentrique.
Ça dépend. Ouvrir leur tente, c'est la manière positive de le mettre. On peut dire aussi que c'est du clientélisme ethnique.
Oh, mais tout à fait.
Oui.
L'un ne contredit pas l'autre.
C'est ça.
Absolument. L'un ne contredit absolument pas l'autre. Mais je vais donner un exemple. La question, je ne sais pas si tu as suivi ce débat-là. La thérapie de conversion.
Oui.
Ça, c'est une lubie qui torture des jeunes personnes par des parents, souvent avec un appui d'une communauté religieuse, pour les torturer psychologiquement et parfois physiquement, pour qu'ils arrêtent d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire LGBTQ.
C'est ça.
Là, la question vient de la Chambre des communes. M. Trudeau, d'une manière, d'une main de maître, faisant ce que font d'habitude si bien les libéraux, ils ont tellement coincé Aaron O'Toole sur ce dossier-là. Ils ont amené un vote là-dessus. Monsieur O'Toole a dit vote libre pour ses députés. Ben, je suis désolé. Lorsqu'il s'agit des droits des LGBTQ, tu peux pas avoir de vote libre pour décider si c'est correct ou pas de torturer les jeunes personnes pour changer qui ils sont.
Mm-hmm.
Et donc, on calcule environ 1 million de personnes membres de cette communauté et leurs proches à travers le Canada. Les appuis pour les conservateurs vont être minimes, à peine mesurable. Et M. Trudeau va recolser ça avec M. Singh au NPD et sans doute à la mi-parle au vert. Mais les conservateurs viennent de se bloquer. Donc, les conservateurs suivent exactement la même stratégie qu'Andrew Scheer. On jette à la poubelle le plus grand nombre de votes possible. Telle communauté, on n'en veut pas. Les Premières Nations, les libéraux sont extrêmement habiles là-dessus. Ils trouvent ça comme un laser, les points de faiblesse de leurs adversaires. Puis ils sont en train de faire la job aux conservateurs de O'Toole, puis O'Toole, il va falloir qu'il se démontre un petit peu plus agile pour répondre à ces attaques-là des libéraux. Mais tout ça pour confirmer ce qu'on disait depuis le début de la conversation. Les élections, ça s'en vient.
Oui, mais en terminant, il faut parler des États-Unis. J'ai mentionné Ezra Levant tout à l'heure. J'ai été sonné hier par le documentaire de Frontline à PBS qui s'intitule United States of Conspiracy. C'est un documentaire qui a été mis à jour, c'est le mot que je cherchais, de mercredi dernier au Capitole.
Merci de la référence. Tu me l'as envoyé tantôt, puis je te garantis que je regarde ça.
Il faut regarder ça, on comprend tout. Il y a une espèce de pacte entre Roger Stone, Alex
Jones. C'est tout un personnage.
Ah, c'est épouvantable.
Effectivement, depuis l'époque Nixon. Puis il y a un excellent film Netflix sur lui.
Oui.
Ça donne froid dans le dos.
Oui, Bring Me Roger Stone. Puis, là maintenant, il y a le conspirationniste Alex Jones qui est au cœur de ce documentaire-là. On comprend qu'il est l'inspiration de Donald Trump, mais c'est épouvantable de voir que notre démocratie, parce que quand je dis notre, c'est la démocratie occidentale, là, est si fragile. Je pense qu'il faut tout faire pour empêcher que des phénomènes comme ça aboutissent ici. Habituellement, les Américains vivent les phénomènes, d'ailleurs. Les phénomènes les vivent, puis après ça, ça se répand partout en Occident. Est-ce qu'il faut craindre ça au Canada, tu penses?
Oh, on en a.
Ouais.
Les Proud Boys, hein? Les Proud Boys qu'on est à la veille de nommer un organisme terroriste ici au Canada, les Proud Boys ont été fondés par un Canadien qui avait fondé Vice. Non.
Puis au Québec, il y a Alexis Cossette-Trudel qui est un peu le Alex Jones.
On en a qui essaie de se démarquer. Mais c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
C'est ça.
Hein? Ça rejette la vieille formule qui avait juste 2-3 sources, entre guillemets, officielles, même si c'était de l'entreprise privée d'information. Les États-Unis se sont bien accommodés pendant au moins 50 ans avec NBC, CBS, ABC, puis pouf, tout tout d'un coup, Ted Turner lance Turner Broadcasting System, puis pouf, tout d'un coup, il y a CNN, et la vie a changé. Mais l'arrivée des médias sociaux a été un phénomène merveilleux pour connecter les gens, retrouver les gens, et ainsi de suite. Mais ça a aussi permis de fédérer des pensées très marginales.
Oui, c'est ça.
Dans une ville de 4 millions de personnes comme le Grand Montréal, je suis sûr qu'il y a toujours eu un dixième de 1% des gens qui haïssaient tel ou tel groupe ou qui avaient tel ou tel lubie. Mais ça, un dixième de 1% dans une ville de 4 millions, c'est 4 000 personnes. Ils étaient répandus, ils ne se connaissaient pas, ils ne pouvaient pas se parler, ils ne pouvaient pas se retrouver.
Ouais.
Maintenant, ils se retrouvent. Ils se retrouvent en ligne. Puis, ils s'auto-convainquent qu'ils sont une mouvance parce que quand même, il y a des milliers de personnes qui pensent la même affaire.
Puis là, aux États-Unis, ça a eu des effets politiques concrets. C'est fou, là.
Le 6 janvier, moi, ce serait toujours dans mon esprit le gars avec les cornes.
Oui.
Tu ne peux pas mieux illustrer le propos de Hillary Clinton quand elle avait traité les supporters de Trump il y a plus de 4 ans.
Oui.
Un panier de déplorables.
Basket of deplorables.
Elle a payé un prix pour ça.
Oui.
Parce que des électeurs de Trump s'insurgeaient, disaient, elle est qui pour nous traiter de ça? Mais c'était la preuve de ça.
Mm-hmm.
Et on a tendance tellement à voir les nouvelles défilées qu'on n'a pas pris une pause pour réfléchir. Qu'est-ce qui vient de se passer? On est dans la capitale des États-Unis, dans les établissements centraux de la démocratie constitutionnelle qui a vécu le plus longtemps sur la planète Terre, puis tu as des oufs avec des cornes en train de tirer sur le policier et en se promenant en disant qu'ils veulent tuer des élus. Et Trump qui a incité ça. Trump, by the way, oublie le deuxième. Tu peux pas limoger à nouveau un gars qui est déjà plus la destitution à nouveau. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ce gars-là, je vous garantis, il va faire l'objet d'un procès au criminel.
Ouais. Merci beaucoup, Thomas, à la semaine
prochaine. Allez, à très bientôt.
Salut. Merci, bye-bye.